À l'écoute de RFI, les 21h, à Paris 20h, en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Israël envisage de prolonger la première phase de la trêve à Gaza, phase pendant laquelle les otages israéliens seront libérés et qui doit se terminer samedi. Les alliés de l'Ukraine multiplient les initiatives diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit tout en préservant les intérêts de Kiev. De nouvelles rencontres entre Européens doivent avoir lieu dans les prochains jours. Le Japon et les Philippines renforcent leur coopération militaire. Les ministres de la Défense des deux pays l'ont annoncé après leur rencontre à Manille. Et puis, de la chanson à l'écriture, la chanteuse française La Grande Sophie publie un livre d'une centaine de lettres dans laquelle elle se raconte. Les discussions sur la suite du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël se poursuivent. Elles portent désormais sur une éventuelle prolongation de la première phase de l'accord de trêve. Les pourparlers continuent alors que le Hamas attend toujours la libération de plus de 600 prisonniers qui devaient être relâchés samedi. Des libérations reportées par les autorités israéliennes qui veulent que le Hamas cesse d'organiser des cérémonies de remise d'otages. À Jérusalem, les explications de Pierre-Olivier.
La presse israélienne se fait l'écho aujourd'hui de discussions tenues à Washington ces dernières heures entre une délégation israélienne et l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui a déclaré à CNN qu'il fallait obtenir une prolongation de la première phase du cessez-le-feu, phase pendant laquelle les otages israéliens sont libérés par l'eau et qui doit se terminer dans quelques jours début mars. Israël veut donc continuer cette phase en échange de prisonniers palestiniens et menace de reprendre la guerre si le Hamas refuse. Mais rien n'est moins sûr à l'heure actuelle, car le mouvement islamique attend toujours la libération des 602 prisonniers qui étaient prévus samedi dernier en échange de 6 otages israéliens. Benjamin Netanyahou avait alors expliqué qu'il gelait la libération des prisonniers en représailles aux mises en scène sordides du Hamas lors des restitutions d'otages. 4 corps doivent être remis à l'État hébreu et si tout se passe sobrement, Israël pourrait relâcher les 602 prisonniers samedi prochain et ainsi débloquer les discussions pour la suite du cessez-le-feu. Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
En Syrie, la tenue d'une conférence de dialogue national ce lundi, première étape d'un processus de réconciliation après les années de guerre civile. Elle s'est achevée sur l'adoption d'un plan de réforme en 6 axes, justice transitionnelle, constitution, institution, liberté, société civile et économie. Un rendez-vous marqué par l'absence des Kurdes, l'administration kurde qui a réagi ce soir indiquant qu'elle ne se sent pas liée par les décisions prises lors de cette conférence à laquelle elle n'a pas été conviée.
En mer Noire.
Après la rencontre hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump, les Européens multiplient les rendez-vous pour parler d'une seule voix sur le dossier ukrainien. Une trêve à brève échéance dont les combats ont été évoqués hier lors de la conférence de presse pour des présidents français et américains, tout en évitant un accord qui serait trop mauvais pour l'Ukraine. La Russie a donné son feu vert à une participation européenne au règlement du conflit. Les Européens qui doivent se réunir demain mercredi en visioconférence pour débriefer ces récents développements. Le Premier ministre britannique, lui, a annoncé qu'il recevra ses alliés, les alliés de l'Ukraine, ce week-end pour des discussions sur le terrain. Après 3 ans d'une guerre de haute intensité, aucun des deux camps n'est parvenu à acquérir la suprématie aérienne, gage d'une maîtrise du champ de bataille et d'une liberté d'action. Les précisions de Franck Alexandre.
En mer Noire, grâce à des drones navals d'attaque, mais aussi grâce à des missiles de précision occidentaux, Kiev est parvenu à repousser et rendre inopérante la flotte russe. En revanche, dans le ciel ukrainien, il n'y a pas eu de domination, ni les Russes, ni les Ukrainiens, malgré la récente arrivée de F-16 et de Mirage français, note Jean-Christophe Noël, chercheur à l'IFRI, ne sont parvenus à gagner la supériorité aérienne.
Les Russes ont essayé, mais ils n'avaient pas les moyens pour détruire tout ce qui était batterie solaire ukrainienne. Et donc, ils ont été chassés en quelque sorte du ciel au-dessus de l'Ukraine. Et les Ukrainiens n'ont jamais eu non plus les moyens d'aller inquiéter les Russes, de se rapprocher du front. Et donc, on assiste à une situation assez particulière. Finalement, chacun est plus ou moins le maître chez lui, mais était incapable de traverser cette espèce de ligne de front pour aller attaquer de l'autre côté. Et donc, il faut trouver d'autres moyens pour avoir une puissance de feu importante qui vient du ciel. Donc, c'est ce qu'ont fait, par exemple, les Russes, notamment avec ces fameuses bombes planantes, et les Ukrainiens, utilisant les drones aujourd'hui, qui pullulent sur la ligne de front pour freiner l'avancée des Russes.
Le ciel ukrainien reste donc un espace hautement contesté. Chaque partie le sait. Qui est au balcon, disent les aviateurs, retrouve alors une grande liberté d'action et de manœuvre.
Franck Alexandre, et l'Ukraine et les États-Unis pourraient s'entendre sur les termes d'un accord sur les minerais ukrainiens. C'est ce qu'indique ce soir un responsable ukrainien à l'agence France-Presse. Des clauses défavorables auraient été retirées. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Les Philippines et le Japon serrent les rangs face à la Chine qui se montre de plus en plus agressive pour contrôler la mer de Chine méridionale. C'est par ce passage que transite près d'un tiers des marchandises mondiales. Les Philippines et le Japon qui veulent renforcer leur coopération militaire. Les ministres de la Défense des deux pays l'ont annoncé après leur rencontre à Manille, Heike Schmidt.
Encore il y a quelques jours, un hélicoptère chinois s'est dangereusement rapproché d'un avion philippin de surveillance à proximité de l'île disputée de Scarborough Shoal. Pour faire face à ces incidents qui se multiplient, Mani cherche le soutien militaire du Japon. Gilberto Teodoro, le ministre philippin de la Défense.
C'est notre cause commune de résister à toute tentative unilatérale de redessiner l'ordre mondial sans consultation des acteurs qui font partie intégrante de cet ordre mondial.
Déjà aujourd'hui, le Japon est l'un des contributeurs clés pour moderniser la flotte philippine. Ken Nakatani, ministre japonais de la Défense, se dit prêt à redoubler ses efforts sans donner plus de précisions.
Nous sommes d'accord pour dire que l'environnement sécuritaire devient de plus en plus tendu. Il est donc nécessaire d'approfondir notre collaboration afin de sauvegarder la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique.
Les deux pays alliés traditionnels des États-Unis sont parmi les plus critiques vis-à-vis de Pékin, qui revendique 90% de la mer de Chine méridionale, à tort, a jugé en 2016 déjà une cour internationale de justice.
Heike Schmidt, et c'est dans ce contexte de tension croissante que les autorités philippines ont indiqué ce mardi détenir deux ressortissants chinois accusés d'espionnage. Ils sont accusés d'avoir payé des chauffeurs philippins en leur ordonnant de circuler à travers la capitale en utilisant un appareil capable d'intercepter des communications, notamment à proximité de sites sensibles, le palais présidentiel ou encore une base aérienne. Au Chili, cette panne générale d'électricité qui a notamment conduit à l'évacuation du métro de Santiago, les autorités n'ont pas encore déterminé les causes possibles de cette panne massive. De l'écriture de chansons à l'écriture tout court, c'est le parcours de la grande Sophie, la chanteuse et compositrice qui a connu le succès notamment avec le tube Du Courage, vient de publier un livre épistolaire aux éditions Phébus. Dans ce récit intitulé Tous les jours Suzanne, la grande Sophie se raconte en une centaine de lettres à une interlocutrice qu'elle a déjà évoquée dans un de ses albums, Sophie Torlotin.
La grande Sophie a beau avoir connu le succès avec notamment ce tube,
du courage, du courage, du courage,
avoir enregistré 9 albums, décroché 4 disques d'or et 2 victoires de la musique, il est difficile de prendre de l'âge dans une industrie qui promeut sans cesse de nouveaux visages plus jeunes.
Passer la cinquantaine, c'est un âge assez ingrat dans mon métier qui est un métier très jeune et on vous le fait ressentir.
La grande Sophie décide alors de se raconter dans des lettres adressées à Suzanne, une confidente, alter ego ou ange gardien qui apparaissait déjà dans une de ses chansons.
Moi, j'ai bien changé, Suzanne.
J'ai essayé de m'appuyer sur mon parcours pour raconter d'où je viens, puisque mon parcours est très atypique. Je ne suis pas l'artiste qui a explosé avec un tube dès son premier album. Non, j'ai petit à petit, j'ai construit, je suis passée par la scène. J'avais besoin de l'expliquer aussi par mon entourage, de faire passer aussi le lecteur dans les coulisses.
Tu n'existes pas, Suzanne.
Et comme la grande Sophie aime la scène, elle adapte son récit autobiographique dans un spectacle musical qu'elle présentera partout en France cette année.
Réponds-moi, Suzanne.
La grande Sophie qui est actuellement en tournée en France avec un spectacle tiré donc de ce livre.